Bon, Jérôme Gliessenstein, je vais vous lire deux extraits d'un livre de Jacques Derrida, mais n'ayez pas peur. ça fait peur comme ça quand on le lit. Mais c'est un livre qui résonne avec l'ensemble des interventions aujourd'hui, qui s'appelle « D'un ton apocalyptique, adopter naguère en philosophie ». Qui prend le ton apocalyptique vient vous signifier, sinon vous dire quelque chose. Quoi ? Mais la vérité, bien sûr. Et vous signifiez qu'il vous la révèle, le ton est révélateur de quelques dévoilements en cours. Dévoilement ou vérité, apophantique de l'imminence de la fin, de quoi que ce soit qui revient, finalement, à la fin du monde. Non pas seulement la vérité comme vérité révélée d'un secret sur la fin ou du secret de la fin. La vérité elle-même est la fin, la destination, et que la vérité se dévoile est l'avènement de la fin. La vérité est la fin et l'instance du jugement dernier. La structure de la vérité serait ici apocalyptique. Et c'est pourquoi il n'y aurait pas de vérité de l'apocalypse qui ne soit vérité de la vérité. Autre passage qui complète. Est-ce que tous les différents n'ont pas pris la forme d'une surenchère dans l'éloquence eschatologique, chaque nouveau venu plus lucide que l'autre, plus vigilant et plus prodigue aussi, venant en rajouter ? Je vous le dis en vérité, ce n'est pas seulement la fin de ceci, mais aussi et d'abord de cela. La fin de l'histoire, la fin de la lutte des classes, la fin de la philosophie, la mort de Dieu, la fin des religions, la fin du christianisme et de la morale. Ça, ce fut la naïveté la plus grave. La fin du sujet, la fin de l'homme, la fin de l'Occident, la fin d'Édipe, la fin de la terre. Et aussi la fin de la littérature, la fin de la peinture, l'art comme chose du passé, la fin de la psychanalyse, la fin de l'université, la fin du phallocentrisme et du phallogocentrisme, que sais-je encore. Et quiconque viendrait raffiner, dire le fin du fin, à savoir la fin de la fin, la fin des fins, que la fin a toujours déjà commencé, qu'il faut encore distinguer entre la clôture et la fin, celui-là participerait, qu'il le veuille ou non, au concert. Je vous remercie.
Donc, Aline Mazarin. Je ne crois pas en... En cette situation, je ne crois pas à ce qui se déroule. Je ne crois pas en la réalité des gens. Je ne crois pas à ce que je pense. Je ne crois pas à ce qui est. Je ne crois pas à ce que je vois. Je ne crois pas aux émotions, aux expériences. En fait, je ne crois pas en la réalité, à la vie tout simplement. Et c'est Giono qui disait que le temps est ce qui se passe ou ce qui est quand rien ne se passe. Et j'aimerais me situer sur cette ligne de temps où rien ne se passe, où tout est immobile. Parce qu'à ce moment-là, on voit peut-être ce qui est en réalité. J'ai été récemment confrontée à la mort de deux amis extrêmement proches. Et en fait, en les voyant dans leur cercueil, excusez-moi, hein, c'est pas très gai, mais je me suis posé cette question. On passe notre temps à essayer d'apprendre à vivre en quelque sorte, quoi. On est au collège, on reçoit une éducation dite civique, mais pourquoi n'apprend-on pas finalement à mourir? C'est un apprentissage, la mort. On devrait apprendre cela. Parce que ça a été deux morts extrêmement différentes. Et je pense que s'intéresser finalement à comment mourir, c'est aussi savoir comment vivre, en quelque sorte. Enfin, il me semble. Donc, la fin, pour moi, c'est... je dirais pas que c'est un... Voilà, la fin, c'est la fin. Et il est temps que j'arrête. Merci.
Laure Gablier, toutes mes condoléances à Aline. Et aussi, je voulais dire un mot à Ariane, mais je crois qu'elle est partie aussi. Elle m'a aussi beucoup touchée. Et j'ai été assez confrontée par cette invitation, cette notion de fin et de début. Et c'est plutôt une observation que j'avais envie de partager avec vous. Et elle touche plutôt à la question de ce dispositif et comment, ensemble, on essaye d'aborder aujourd'hui ces questions de fin et de début dans une chaîne où on est tous des relais dans cette parole qu'on construit. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir à cette importance aussi, à un moment donné, de se comprendre comme un maillon dans une chaîne, dans une chaîne de vie, dans une chaîne d'alimentation, dans une chaîne de parole. Je ne sais toujours pas... Je digère, je continue de digérer, je continue d'entendre et je continue d'être touchée. Mais c'est aussi troublant, ce dispositif où on vient prendre la parole. On vient arrêter la parole alors qu'on essaye aussi d'ouvrir une conversation ensemble. Et je voulais aussi partager juste quelque chose qui est peut-être pour moi une image que j'ai... Une histoire que j'ai croisée hier soir dans une exposition qui a ouvert Arbre de guerre, et où il était question d'une forêt de noyers, non pas de châtaigniers comme on en a entendu parler plus tôt, une forêt de noyers qui, à un moment donné, s'est développée du fait que des soldats sont morts et ils portaient dans leur poche des noix, et des soldats russes, et c'était une tradition que leur maman leur donne des noix quand ils partaient pour la guerre. Et donc ils sont morts dans un champ, et dans leur poche, la noix est devenue graine et la graine est devenue arbre. Voilà, j'avais juste envie de... qu'on ait tous conscience de ce dispositif de parole aujourd'hui. Merci.
Bonjour, Santiago Reyes. Donc voilà, je voulais passer après Laure parce que je me suis dit qu'elle allait m'inspirer à une réponse peut-être parce que j'ai rien préparé. Et en effet, c'est super intéressant ce dispositif, comme tous les dispositifs qu'il peut se... d'essayer de se créer autour de quand il s'agit de partager la parole, d'essayer de créer des échanges ou peut-être une communauté. Et en fait, je ne suis pas quelqu'un des paroles, mais c'est que pour moi, c'est très enrichissant. C'est parce que chaque fois que je me retrouve dans ces conditions-là, c'est une espèce de miroir, en fait. Dans toutes les paroles qu'on a entendues ici, toutes les réflexions sont un peu les miennes, sont un peu, moi je pense des fois je pense très mal, mais en tout cas toutes ces pensées elles peuvent passer à un moment donné par ma tête. Je vais essayer de venir à cette question de la fin du monde. Je ne sais pas quoi dire. Il y a tellement de choses qui ont été dites. Je pense un peu... Pour moi, pour ma femme, par exemple, je pense à revenir là où j'étais né. Quelqu'un avait à un moment donné parlé de l'endroit où on est né, ou de la terre, l'espace où on est né. Et finalement, c'est très important. Ça fait 25 ans que je suis loin de chez moi. Donc, sans vouloir parler ni d'écologie, ni de toutes les catastrophes qui nous arrivent et qui vont nous arriver certainement de plus en plus, je pense un peu à la fin de ma vie, peut-être trop vite, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas quoi dire d'autre. Merci.
commence par tout déménager. Fabrice Trémon. Voilà. Merci d'abord, merci aux lombriques, aux fleurs, aux plantes et à toutes les bonnes choses qu'on a mangées et aux gens qui les ont fait pousser et cuisiner. C'était vraiment très chouette de manger dans cette serre. Normalement, j'écris. Si j'écris, c'est parce que je ne sais pas très bien parler. Mais quand je lis, c'est chiant. Voilà. Donc, je parle. Alors, j'avais envie de partager avec vous l'endroit où j'en étais dans mes réflexions et ce à quoi j'avais envie de travailler dans les temps qui viennent. Parce que c'est un peu la rentrée. Moi, j'ai pris comme mon teint l'indique, pour ceux qui n'ont pas l'image. Je suis un peu bronzé. J'ai repoussé longtemps ma venue à mon retour à Paris. La fin, pour moi, ça serait le commencement de la fin, ça serait quand la guerre commencerait. Quand la guerre commencerait, où on aurait tous décidé de mener une guerre acharnée contre la domination. Vous verrez que j'ai 30 ans de retard, donc il n'y a pas très longtemps, un film qui m'a beaucoup marqué, qui est fait avec Henri Laborie, qui est mon oncle d'Amérique, de Rennes, et qui se finit comme ça. Il finit, c'est une démonstration sur ces questions de domination, mais d'un point de vue scientifique. Et il dit, on est effectivement, c'est dans notre ADN d'avoir besoin, pour justement répondre à nos besoins, de se dominer les uns les autres. On est notre cerveau reptilien, il est fabriqué comme ça. C'est une loi naturelle. Très bien, mais l'attraction terrestre, c'est une loi naturelle aussi. Et on est quand même allé sur la Lune. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, pour moi, le début de la fin, ça serait quand on va commencer à se dire, notre ennemi commun, c'est la domination. On est tous les agents, elle nous traverse tous, on est tous les objets, les sujets. Je disais il n'y a pas longtemps un truc sur le pouvoir. C'est toujours, c'est le vieux truc de Bakounine, on est possédé parce que les bourgeois sont possédés par ce qu'ils possèdent, et on est possédé par le pouvoir. Personne ne possède le pouvoir. Évidemment. Bon, bref. Donc, mon projet, c'est ça. Bon. C'est générationnel. Donc, moi, j'ai 50 ans. S'il y en a qui sont par là, je pense qu'on est passé un peu par les mêmes choses. Un des grands drames, mon drame historique, mon premier drame historique, c'est Jean-Marie Le Pen au deuxième tour en 2002-2003. Et puis, c'est quoi l'inverse d'un drame ? Pas la comédie, mais... Ce qui s'est passé, en tout cas pour moi, ce qui s'est passé l'année dernière sur les ronds-points de France a été un truc d'une joie incroyable. C'est l'ouverture de beaucoup d'espoir et beaucoup de choses. Et j'en arrive à ce que je vous dis, ce à quoi je voudrais aujourd'hui réfléchir. Et comme je n'ai pas forcément les outils non plus pour ça, peut-être qu'il y en a qui pourront m'aider à ça. Mais je vois arriver les contre-feux qui sont lancés contre ce grand vent de révolte, je ne sais pas comment il faut appeler ça, où tout d'un coup, le peuple, qui est quand même gavé de conneries à longueur de journée, trouve l'énergie, je ne sais pas où, de se dire qu'ils ne veulent plus de ce système et qu'il y a quelque chose qui déconne, vraiment. Ça, moi, je suis d'une admiration sans borne, parce que nous, on passe notre vie dans des expos, à lire des bouquins, les machins, mais ce n'est pas la vie des gens, on est bien d'accord quand même, donc eux ils regardent Koh-Lanta et on leur explique depuis l'école que la vie c'est niquer le voisin et leur boulot c'est niquer le voisin. Je vais essayer de pas me perdre dans ce que je dis. Oui, je vois les contre-feux arriver et je vois la rentrée là, planquée à la campagne, et je vois les contre-feux qui sont les hommes et les femmes. C'est parler de l'égalité des hommes et des femmes, c'est le sujet de la rentrée. Alors évidemment, le projet, c'est surtout pas de parler d'égalité. C'est de continuer à diviser tout le monde. Et que, jusqu'à présent, très efficacement, les manipulations migratoires et autres ont réussi à diviser les classes populaires. Ça, c'est réussi, ça s'est fait. Mais comme le niveau monte, c'est-à-dire que les possédants, les riches, ils sont maintenant 25 à posséder la moitié de la planète. Les classes moyennes, c'est en trop, quoi. On disait tout à l'heure, maintenant, il suffit d'avoir des maîtres, quelques-uns, et puis des esclaves, beaucoup. Entre les deux, on n'a plus trois troupes. Plus trop besoin de gens, donc plus trop besoin de démocratie. Juste d'ailleurs, entre parenthèses, un des grands projets aussi de la démocratie, ça, maintenant, ça va être de nous convaincre que les gens sont cons. Les gens sont cons, vous comprenez. Donc il faut un peu serrer la vis, vous comprenez. ils polluent, ils consomment mal, ils sont cons, quoi. Donc la démocratie, vous comprenez bien que bon. J'en reviens à cette question parce que ça nous concerne, cette question des hommes et des femmes, quoi. C'est que si on maintenant, alors on a divisé les classes populaires, mais maintenant si on pouvait diviser la population, si faire la guerre des hommes contre les femmes et des femmes contre les hommes, ça serait génial. Ça, c'est vraiment, ça serait formidable, quoi. Alors évidemment, il faut dire tout de suite que évidemment le machisme est un truc qu'il faut s'employer à détruire, déconstruire, voilà, mettre par terre. Mais évidemment, quand Marlène Schiappa passe à la télé, c'est pas pour dire, pour mettre à bas le machisme. C'est éventuellement pour le faire changer de sexe, mais surtout pas pour détruire la domination et le machisme. Hein. Donc voilà. Enfin, et donc ce que je voulais vous dire, c'est que, parce que c'est pas ma tournure d'esprit, c'est que je me rends compte maintenant, quand je commence à lire les choses, et je vois, et je suis beaucoup trop long, mais je vais me dépêcher. Tous les contre-feux à la révolte qui sont lancés et qui sont terribles, parce que je trouve qu'ils nous touchent tous, parce que évidemment, ça, c'est des ressorts et des choses. Évidemment que le machisme est haïssable et qu'il faut réfléchir à ça. Évidemment que le postcolonialisme est à mettre sur table et à discuter et à condamner, enfin, à comprendre. Bon. Mais tout ça. Et c'est nous qui sommes instrumentalisés les premiers. Tout ça pour évidemment ne pas parler de domination, ne pas parler d'inégalité, ne pas parler pour que tout continue. Il y avait un autre dernier exemple, mais je le retrouve plus. Mais bon, ce coup-là, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ce coup-là, tout d'un coup, ça m'a frappé de me dire ah mais oui, en fait, le projet, c'est que les hommes et les femmes se foutent sur la gueule, en fait. Ça serait bien pour que tout continue, en fait, pour que la domination continue de fonctionner. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Ivan. Présenté tout à l'heure, je fais partie aussi du Parti Poétique. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous raconter, c'est un petit récit que j'ai fait ici à partir de mon expérience de travail ici chez l'association du Parti Poétique. Et c'est un récit aussi sur la fin du monde, mais abordé de façon un peu plus optimiste, je dirais. J'espère avec un peu d'espoir, et pas juste dans la célébration de la tristesse et l'effondrement. Du coup, là, c'était surtout... je vous raconte un peu nous, d'habitude, ici au Parti Poétique, on ferme la ferme. On doit s'occuper de fermer tous les containers. Imaginez que c'est une image très beau parce que c'est le coucher du soleil, il arrive sur la verticalité comme ça. On a ces amarantes très colorées comme ça. Et les premières, les animaux qui sont au-delà des abeilles, les animaux qui sont toujours là, sont un couple de corneilles qui habitent la ferme depuis des années. Et là, j'ai écrit ce petit récit, que c'est en réalité, c'est un dialogue entre moi et Franck sur la fermeture des zones sensibles. Voilà, j'essaie de vous le dire. Il nous restait qu'un conteneur à fermer, celui des outils d'apiculture. Avant de se dire au revoir et de prendre chacun son propre chemin, quand Corneille a attiré l'attention de Franck, elle s'est promenée presque sur nos pieds. Elle est venue juste à côté de nous et nous regardait. Franck, il m'a dit, « Tu sais, Ivan, les corneilles sont les vrais propriétaires de la ferme. Je crois qu'elles étaient là aussi avant notre arrivée. Je m'en doute pas. Toute la famille Carsanté les a connues. Elles ont choisi ce territoire et l'habitent depuis nombreuses années. Elles sont comme les gardiens de la ferme, en quelque sorte. Les matins, très tôt, quand j'arrive, elles m'accueillent. Et comme elles viennent de faire l'un des deux, elles me saluent. Viens, je te raconte une chose. Tu vois l'arbre qui est juste là, au-delà de la roue? Bien, elles ont niché là-bas. Ils ont bâti l'appartement pour veiller de l'auteur, pour avoir, ainsi dire, une vue panoramique sur tout ce qui se passe. S'ils arrivent des autres animaux, surtout d'autres oiseaux, Elles planent pour défendre leur ferme. Moi, de mon côté, j'avais l'impression de rencontrer un peu ses amis, un Franck. J'étais un peu gêné quand même. L'embarras, c'est qu'on éprouve et on expérimente dans un contexte social entre humains quand quelqu'un te présente son meilleur ami et tu ne le connais pas encore. Tout le monde pense, continue France, que Franck, que les corneilles sont des animaux indésirables, bruyantes, désagréables. Une fois, moi aussi, je les ai amenés loin car j'avais peur pour ma récolte et qu'elle allait bouffer toutes mes plantes, mes légumes et mes fruits. Puis un matin, je suis arrivé et elles n'étaient pas là. Un sentiment de tristesse m'a envahi. J'étais déçu de ne pas les revoir. Et à ce moment-là, que j'ai compris qu'elles faisaient vraiment partie de mon écosystème de la ferme. Sans eux, et je n'exagère pas, Ivan, j'éprouve un sentiment de vide. Pendant ce temps, elles semblaient nous regarder et puis comprendre ce que moi et Franck on venait de dire. Je ne sais pas comment, mais j'étais sûr qu'elles avaient compris qu'on parlait d'elles. Les corneilles, me dit Franck, je ne sais pas si tu es au courant, Ivan, mais comme beaucoup d'autres animaux, sont monogames. Une fois que la couple est formée, elle peut durer plusieurs années, même toute la vie. Nos corneilles, elles ont eu aussi des petites cette année. Ils sont grandis et sont quittés l'appartement des parents. Ces oiseaux, en sens aigu de l'orientation, ils peuvent facilement trouver leur chemin de retour à la maison. Comme si c'était Noël, aussi pour les corneilles, de temps en temps, les enfants viennent rendre visite à leurs parents pour des occasions spéciales. J'essaie de me rapprocher de l'oiseau pour les regarder de plus près. Je remarque qu'il a des petites taches sous le corps, à l'auteur de son cou. Moi, je n'ai jamais vu de doublon sous un corneille, l'oiseau qui, dans l'imaginaire un peu commun, c'est l'animal noir par excellence. Alors je demande à Franck. Oui, Ivan, malheureusement, je crois qu'elles sont un peu malades. Nous avons un McDonald's à côté, juste à côté. Elle mange beaucoup de déchets et des fast-food. Elle devant tout ce qu'elle trouve. Ce sont des animaux qui s'adaptent facilement à toutes ces conditions pour survivre. J'ai craint qu'elles n'ont pas beaucoup de temps à vivre. En rentrant chez moi, en métro, un sentiment de nostalgie mêlé à de la tristesse m'a tout de suite envahi. Même s'il n'y avait pas trop de réseaux au métro, j'arrive quand même à télécharger une page qui décrit un peu plus en détail la vie, l'histoire et le comportement de cet oiseau. Mon œil se pose immédiatement sous les paragraphes intitulés « Histoire et étymologie ». J'apprends que, dans la mythologie grecque, les corneilles étaient vénérées pour leur plumage entièrement blanc. Je lis alors sur le web que le mot corneille renvoie à Coronis, c'est la mante d'Apollon. Je continue. Coronis était la fille de Pléjas, roi de la Pythie. En fait, elle s'appelait Aigla, mais l'avait surnommée Coronis à cause de sa beauté. Coronis était enceinte d'Apollon quand elle a pris pour amant un Arcadien, fils de Latos, car elle avait peur, disait-elle, que le dieu l'abandonnait quand elle serait devenue plus âgée. Apollon fut averti de son infortune grâce à son don de divination, ou bien par les descriptions d'une corneille, qui était blanche à cette époque. La pauvre corneille fut maudite, et depuis ces jours-là, son plumage devient noir. Ah, alors là, je comprends. C'est Apollon qui les a transformés en noir. C'est ainsi l'oiseau du ciel est devenu, depuis toujours, le symbole de la fragilité de l'existence sur Terre, et un peu un présage des morts. Ces mythes déclenchent une série de connexions dans ma tête. D'abord, je pense que c'est un dieu qui en fait des oiseaux noirs. Alors je pense à l'instant, à l'illusion humaine, de sa volonté de puissance, elle aussi mortelle, de pouvoir penser dominer le monde, de le contrôler. Il n'y a aucun doute. Métaphysiquement, nous sommes encore métaphysiquement dominés par l'idée selon laquelle nous pouvons, comme Apollon, tout changer. Nous y croyons même en mesure de pouvoir changer la couleur d'un oiseau, comme il serait suffisant de les chasser avec une simple touche des mains sous l'emprise de la colère. Mais un dieu reste un dieu, et l'homme reste un homme. L'homme, même s'il désire encore profondément, il n'est pas un dieu. Il n'est pas dans ses cordes la possibilité de changer les plumages d'un oiseau. Ce qu'il peut faire, peut-être, c'est encore pire. Il est capable de blesser la nature, de la tuer, de la rendre fragile. C'est un mauvais pouvoir destructeur qu'il ne maîtrise à aucun moment. Les blancs n'est donc les blancs de Dieu, mais la couleur de la mort qui porte les vestiges de l'homme. Je retourne au travail le lendemain. Je demande à Franck s'il a une chance de les aider. Il dit oui en cherchant de garder un peu d'optimisme. Mais Ivan, tu sais, il y a encore un long chemin à parcourir. Il me dit avant de partir. Voilà. Je voulais raconter cette histoire.
Bonjour. Alors nous, on fait une intervention groupée. On est l'équipe de synesthésie. Par introduire. Alors, on est trois à travailler à synesthésie. Moi-même, Lorraine Barnel, Antoine Boileau. Et en fait, c'est un peu l'équipe qui vous a invité ici, parce qu'il y a aussi une personne de zone sensible qui nous a rejoint, qui vous a déjà lu un magnifique texte de Kevin Bartoli. Et enfin, il y a Dora qui participe avec nous à cette intervention. Dora, qui est l'équipe cuisine qui vous a servi ce magnifique buffet. Vous avez pu la voir passer des tartines et des bons gâteaux. Elle fait partie de l'équipe de Thérèse. Thérèse, je tiens à préciser que c'est grâce à elle qu'on a pu aussi bien manger. Du coup, quand on nous a demandé de présenter, commencer par la fin, de faire une petite intervention, on s'est posé plusieurs questions, comment on allait faire. On a dit, bon, ce serait intéressant de changer un peu, pas faire un grand discours sur la fin du monde, on va tous mourir, parce que c'était un peu triste quand même. Donc on a dit, bon, on va peut-être faire une chanson. Ok, non, je spoil pas. On va faire une chanson. Quelle chanson? Est-ce qu'on fait une chanson à l'envers? Ça peut être sympa. Finalement, c'est hyper compliqué. Est-ce qu'on prend une chanson de Nirvana? Parce que Nirvana, des fois, il y a des choses qui sont cachées dans les chansons, si on les écoute à l'envers ou si on les écoute sans son, sans parole. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, ça parlait que de la mort. Du coup, on a dit, bon, ben non, c'est un peu triste, et il fait beau. Là, il fait beau. Du coup, on ne va pas faire ça. Et on a choisi d'interpréter une chanson, enfin, d'interpréter en slam, une chanson de Georges Brassens, qui est « Mourir pour des idées ».
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus.
Ils ont su me convaincre, et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de desserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente.
Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin, car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain.
Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idée. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles, et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles?
Ceci est l'étoile de la vie, présentée par Dora.
Bonjour, je m'appelle Dominique Gilliot et j'ai amené mon propre matériel du coup. Mais je suis un peu embêtée parce que il s'est passé un truc. Je suis là depuis 11h. Je suis venue à 11h pour faire une balance. C'est ce qu'on fait quand. Voilà. Et du coup, là, c'est marrant parce que du coup, il y a une espèce de chose qui va parler un peu de notre sujet. C'est que moi, j'avais un espèce de but comme ça qui était. Mon intervention là, et pendant toute cette après-midi, j'ai vu mon installation se déconstruire, le son étant bougé, tout ça, et en fait, je vais devoir refaire une balance là, devant vos yeux ébahis. Donc, ça commence comme ça. Donc, la fin du monde, ça demande un peu de patience, évidemment. Déjà, on peut dire ça. En attendant, vous pouvez penser à la mort, par exemple, mais aussi à la vie. Car je meuble très mal, hein, mais je me rends compte, c'est déjà une chose.
Donc dans cette intervention, il y avait du hard rock FM. Et bon, j'ai l'impression que ça se déroule pas si mal jusque-là. Je vais chanter une chanson un moment, c'est ça que ça annonce. Là, c'est à un moment, il y aura une chanson. Peut-être même deux. Mais d'abord... J'ai le temps ou pas? J'ai un peu le temps? Ok.
Bonsoir. Je suis le maître du monde. Et je suis venu vous dire deux, trois trucs, vu que je passais par là, à Saint-Denis, par la ligne 13. Donc, comme vous avez pu le constater, on a un gros problème là avec la civilisation. J'ai envie de pousser un long cri de désespoir. Oh ! Cette civilisation boite. Elle boitille même. L'humanité a la jambe droite prise dans un piège à ours. Et la jambe droite, c'est la jambe d'appel quand on pratique le triple saut, il faut le savoir. Et malgré ça, l'humanité s'entête à pratiquer le triple saut alors que... Finalement, quand on y pense, le saut simple, c'est déjà pas mal. Surtout quand on a la jambe prise dans un piège à ours. Alors bon, je viens du futur. Le futur proche. Parce que là, il faut oublier la notion même de futur lointain. Le futur lointain a cessé. Il n'y a plus que le passé immédiat. Le présent continue. Et le futur proche, d'où je viens. Dans le futur, vos enfants ne vous diront pas merci. En fait, ils vous diront non merci. D'ailleurs, arrêtez de faire des enfants. Les enfants, c'est hyper polluant. En plus, c'est chiant. Moi, je le sais parce que je prends le train souvent, comme je suis le maître du monde. Voilà. Alors, la civilisation a entamé une chute lente et régulière à partir du moment où on a commencé à mettre des petits pulls aux petits chiens. Parce que moi, je me balade souvent au but de Chaumont et les gens mettent des petits pulls aux petits chiens. C'est fou, quoi. Et bientôt, ce qui va se passer, c'est qu'on mettra des petits pulls aux grands chiens. Et là, on pourra se dire qu'on est proche de la fin. La fin du monde. La fin du monde tel que nous le connaissons.
Donc c'est là que ça va devenir... Je reprends ma voix normale. On est... le maître du monde est reparti chez lui pour l'instant. Voilà, donc la fin du monde, c'est pour demain. Et du coup, là, si je calcule bien, comme on me dimanche, ça veut dire que ça tombe un lundi. Et finalement, c'est pas mal, parce que comme ça, on a pu profiter du week-end. Et c'est important dans le monde dans lequel nous vivons de profiter du week-end de temps en temps. En plus, là, c'était la nuit blanche. La fête, quoi. Spéciale dédicace hein, à tous les collapsologues, les collapsologistes et les survivalistes de mon quartier. Et ils sont nombreux, car j'habite dans le 10e arrondissement de Paris.
On va tous crever et tu le sais, On va tous crever et tu le sais, On va crever comme l'espéranto, on va crever. Comme le franc en 2002, on va crever. Comme les poils téfales, on va crever. Comme l'hétéronormativité. On va crever comme le Minitel et les tam-tam et les Discman et tous ces trucs qui n'ont jamais vraiment fonctionné. Tu le sais. sais, tu le sais, tu le. On va tous crever. Tu le sais, tu le sais, tu le. On va crever comme quand c'était cool d'avoir un MySpace et de faire brûler de l'encens. Et puis on va crever comme le bug de l'an 2000, comme l'apocalypse de 1999 et celle de 2012 aussi. On va tous crever et tous ensemble. Et tu le sais, tu le sais, tu le. On va tous crever. Et tu le sais, tu le sais, tu le.
Rebonjour, je suis maître du monde. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait un défi jeune. J'ai touché 7600 balles pour monter mon projet de transformation d'algues vertes en complément hyper protéiné. Et ça, c'est putain d'innovation. J'ai même fait la couve de management. Mais là, j'en ai ras le cul des cocktails et des limos et des hôtels sur les grandes avenues des grandes villes. J'en ai ras la patate. Ça peut plus continuer comme ça, j'ai envie de tout envoyer dinguer, quoi, d'un coup, quoi. J'ai envie de pousser un long cri de désespoir. En plus, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé qu'il pleuvait. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais là, en fait, il pleuvait dans ma bouche. Directement dans ma bouche. Et c'était une pluie acide, avec des petites particules fines mêlées dedans. Et ça avait un goût de galette saucisse. L'enfer. Du coup, je me suis réveillé en sueur et j'ai décidé de monter un autre projet qui me concerne personnellement. C'est d'aller m'installer dans le tunnel à Marseille, qui est juste à côté de la friche de la Belle de Mai. Un tunnel double voie. Et d'y passer les mois d'été. Parce que ça, c'est le futur. C'est notre futur. Et le futur, c'est le début de la fin. Mais bon, comme je viens justement du futur proche, comme je le disais tout à l'heure, je peux vous dire que ça n'arrivera pas comme dans les films. Parce que dans les films, en fait, l'apocalypse, c'est un truc hyper beau. C'est comme un feu d'artifice. C'est comme le bouquet final, quoi. Alors que là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va juste s'éteindre lentement comme des tuberculeux dans un sanatorium qui aurait été installé en plein centre de Sao Paulo. Quelle bonne idée. Et donc, ce sera une agonie lente et douloureuse qui n'aura rien d'héroïque. On n'assistera pas à cette apocalypse spectaculaire en Dolby Surround 5.1, écran plat, coin carré. Non, en fait, tout va juste se rétrécir. Petit à petit, ça va juste se rétracter petit à petit et se liquéfier comme un bloc de glace sur la mer Méditerranée. C'est ça qui va se passer. Et ensuite, ce qui nous restera à faire, c'est juste à organiser des parcours d'agility. Ah, c'est les parcours pour les chiens, là. C'est tellement beau. Et on fera ça le long des côtes anglaises, parce que c'est joli les côtes anglaises, et puis c'est très vert, et puis... Et puis peut-être qu'on y soumettra des grands chiens qui portent des petits pulls, ce sera hyper mignon. Voilà.
Alors là, de deux choses... Waouh, c'est marrant quand cette voix revient. C'est comme une mue à l'envers, mais comme on commence par la fin, tout ça, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, il n'y a plus de verticale ni d'horizontale, il n'y a plus que moi qui vous parle. Et cet avion qui passe dans le ciel. Alors, je m'étais dit, parce qu'en fait, on a abordé pas mal de sujets pendant cet après-midi, mais moi, je dois vous avouer que je suis pas forcément très à l'aise avec ce truc de fin du monde. Moi, mon sujet, c'est l'amour. Et en même temps, y a comme un espèce de rapport. C'est Eros et Thanatos, quoi. Parce que finalement, quand on y pense, si on se dit que... Il y a un truc positif dans cette idée de fin du monde, c'est que finalement, le reste a plus grande importance, donc autant y aller, quoi, j'ai envie de dire. Donc, Bah, et, allons-y. Ouais. Alors, et, je m'étais dit peut-être une deuxième chanson qui parlerait cette fois d'amour. Tout à l'heure, la balance était vraiment très mal faite, mais c'est ma faute, j'ai mal faite. Du coup, je récolte ce que je sème. Alors, attendez. Désolée, hein, c'est très... mais comme c'est la fin de la journée, que hier c'était la nuit blanche, et qu'on ne dort pas beaucoup en ce moment, je parle de moi. Quand je dis « on », ça veut dire « je ». Mais peut-être vous aussi. Hein. Il y a beaucoup de communs aujourd'hui. Voilà. Alors, bon. L'amour. Oui, alors, je voulais annoncer que le 20 octobre, il y a une conférence à la station qui s'appelle « Comment s'aimer quand c'est la fin du monde ?» Et je vous recommande tous d'aller voir ce truc, ça va être génial, je pense. Parce qu'en fait, il y a des rapports, par exemple, si on pense... vous connaissez les Smiths, ce groupe, Morrissey, le chanteur de ce groupe, il a écrit une chanson, qui est une chanson de rupture, qui s'appelle « I know it's over ». Et quand on écoute les paroles, on se dit, mais en fait, on dirait qu'il parle de la fin du monde. Ça fait genre « Oh, mother, I can feel the soul falling over my head. » Et après, je crois que ça fait genre la suite, évidemment. « I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. » Et donc, pour traduire, c'est, ça fait genre... bon, maman. Enfin, il en appelle à quelqu'un qui peut l'aider, éventuellement. « Maman, j'ai l'impression que le sol est en train de s'écrouler sur ma tête. » Donc, il y a un truc un peu de... « Le sol est en train de s'écrouler sur ma tête. Je sais que c'est fini, et pourtant, je m'accroche. Je sais pas où je pourrais aller. » À part ça, à part là, et en fait, c'est un peu ce qui nous arrive. On ne sait pas trop où on pourrait aller à part ici. En fait, on n'a pas de, plan B. Et si on avait un plan B, eh ben, je pense qu'on réussirait en quelques dizaines de siècles à le saloper comme on a fait avec ce plan A. Donc, et ça, c'est finalement, si on fait le parallèle, ben, c'est comme dans les histoires d'amour, quoi. On finit toujours par saloper le plan A, le plan B, puis le plan C, le plan D. Ah, merci pour ce rire empathique. Mais j'ai envie de dire, il faut quand même continuer d'y croire, sinon, qu'est-ce qui nous reste ? Bon, on va tous crever, mais... sinon, qu'est-ce qui nous reste ? Ben, le sentiment, quoi. Je vais terminer là-dessus, comme ça, après, j'ai envie de dire... Enfin, je veux dire... mais s'il y a d'autres gens qui veulent prendre la parole, après... c'est un slow, donc on peut danser, ce qui serait un peu... osé, dans une serre, à Saint-Denis... 4h d'après-midi, mais pourquoi pas. C'est pour toi, Caroline Coulon. There is a flag.
Through you, and I want to get to kiss you too.
place. Just meet me in the real world. Meet me in the real world. 'Cause I'm here waiting for you.
Terminé avec et en fait ça s'est envolé, mais peut-être c'est pas très important. Waouh, merci, waouh, hop là, bravo. C'est pour voir qui suivait.
En tant que maître du monde, j'ai pu établir que nous vivions actuellement dans une catastrophe au ralenti. Parce que j'ai pris le temps de regarder des plantes pousser longtemps, très longtemps. Je peux faire ça parce que je suis le maître du monde. Et j'ai constaté qu'il y avait comme une contre-évolution, quelque chose qui se rétracte et qui fonctionne maintenant. Et ça, ça rejoint le titre de cet événement, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qui n'indiquerait plus le nord. Chelou. Super chelou. Et même hyper préoccupant, en fait, quand j'y pense, putain, merde. Comment on va faire ? C'est pour ça que j'ai pris la décision de sortir faire un bowling, en attendant la fin du monde. Tel que nous le connaissons. Allez, bisous, bonne soirée.
Et voilà, et du coup, en fait, je crois qu'il y a du rab. Enfin, si on a des gens. Non, il n'y a pas de rab. Bon, okay. C'est la fin du monde, tel que nous le connaissons. Et le mot de la fin, je vais le dire, c'est putain.